Vous êtes sur RTL.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Robière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce jeudi 10 décembre, le numéro 2 du ministère de la Santé pointait du doigt sur la pénurie de masques du printemps. La commission d'enquête du Sénat désigne Jérôme Salomon qui n'a pas renouvelé le stock en 2018. Jean Castex va-t-il nous gâcher les fêtes? Le Premier ministre dévoilera à 18h de nouvelles mesures pour endiguer l'épidémie. Y aura-t-il de nouvelles règles de couvre-feu? Aura-t-on le droit de célébrer la nouvelle année? Les cinémas, eux, redoutent de ne pas rouvrir. Quant aux vaccins, les médecins généralistes seront en première ligne. Il leur faudra rassurer leurs patients, les informer. Le syndicat MG France va proposer une préconsultation pour ceux qui font des allergies face au risque du vaccin de Pfizer. Dans RTL Midi aussi, nous dégusterons du jambon, mais sans nitrite. Sa couleur sera moins appétissante, mais il n'en sera que meilleur. 135 millions d'euros d'amende contre Google et Amazon. Et les fameux cookies qui permettent de nous envoyer des pubs ciblées. Ils ont juste oublié de nous demander l'autorisation. La météo, bonjour Peggy Broche.
Bonjour Christelle.
Un peu plus calme cet après-midi.
Oui, la perturbation de ce matin perd de son activité. Ça reste couvert avec seulement quelques faibles pluies éparses entre la Méditerranée et les côtes de la Manche en passant par le Massif central. Le Massif central où la limite pluie-neige remonte à 1300 mètres à l'avant entre les frontières du Nord et de l'Est. C'est lumineux, un ciel juste voilé. Et puis à l'arrière, entre la Bretagne et les Charentes, petite amélioration. Plus d'éclaircies, moins d'averses. En revanche, ça reste perturbé sur les Pyrénées avec de la pluie, de la neige à 1400 mètres. Et toujours une vigilance orange avalanche pour les Pyrénées-Atlantiques et pour crues sur les Landes. Les températures sont contrastées entre l'Est et l'Ouest, de 3 à 7 à l'Est et de 10 à 14 degrés à l'Ouest.
La question du jour sur RTL.fr à propos de l'épidémie, vous ferez-vous vacciner? Il y a 49% de non, 33% de oui. On attend vos témoignages au 32-10. Bonjour Pascal.
Bonjour Pro. Christelle, et c'est vrai qu'on entend des médecins qui manifestement sur ce vaccin n'ont pas le même avis et c'est pour cela que le doute peu à peu grandit dans l'opinion. L'autre sujet, vous l'avez dit, c'est la commission d'enquête du Sénat qui pointe la responsabilité de Jérôme Salomon. Doit-il rester à sa place? La question est assez simple, finalement. Le déconfinement aura-t-il lieu mardi 15 décembre? Et là aussi, vous avez mis en place les éléments de la discussion. Et puis, faut-il interdire le port du voile aux petites filles? C'est la présidente déléguée du groupe de La République En Marche à l'Assemblée, Aurore Berger, qui travaille à un amendement sur ce sujet. A tout à l'heure.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
C'est une affaire qui tombe au plus mal en pleine deuxième vague de l'épidémie pour la crédibilité des autorités sanitaires. La commission d'enquête du Sénat, chargée de tirer les leçons de la crise, met en cause le numéro 2 du ministère de la Santé, Jérôme Salomon. Vous savez, c'est l'homme qui fait régulièrement des points presse sur l'épidémie. Elle met en avant sa responsabilité dans la pénurie de masques dont on a souffert au printemps, Marie Mollet.
Oui, car d'après ses conclusions, Jérôme Salomon aurait fait pression pour modifier une expertise qui recommandait un stock massif de masques. Tout commence en 2018, bien avant la crise du Covid. Santé publique France commande une expertise indépendante sur le risque de pandémie de grippe et notamment sur le besoin en masques pour y faire face. Ce rapport est catégorique, il faut constituer un stock d'un milliard de masques, 50 masques par foyer. Ce chiffre est embarrassant pour le ministère de la Santé et son numéro 2, Jérôme Salomon, car depuis plusieurs années, la doctrine est de ne pas renouveler ce stock d'état de masques pour faire des économies. Les masques ont une date de péremption, il faut les jeter au bout de 5 ou 10 ans et c'est, si j'ose dire, autant d'argent à la poubelle. D'après les sénateurs et des mails qu'ils ont pu consulter, Jérôme Salomon aurait tenté de faire modifier ce rapport d'expertise, comme vient de l'expliquer le sénateur Bernard Jomier.
On établit formellement qu'il y a eu intervention du directeur général de la Santé sur un rapport d'expert et que contrairement à ce que semble indiquer l'auteur de ce rapport a bien été modifié suite à cette intervention. Et ça, c'est un dysfonctionnement grave du fonctionnement des pouvoirs publics.
Et on est à ce moment-là en 2018, donc Jérôme Salomon ne pouvait pas prévoir, bien sûr, la pandémie de la Covid, mais le rapport met aussi en cause son manque de réactivité, alors qu'il connaissait parfaitement l'état des stocks quasi vides.
Et je vous propose d'écouter la première réaction de Bruno Retailleau, le président du groupe LR au Sénat.
Comment demander la confiance aux Français? D'abord, je voudrais adresser une question au ministre de la Santé. Était-il au courant? S'il n'était pas au courant, l'autre question, c'est quelle suite il compte engagé après la révélation de la commission d'enquête du Sénat.
Bruno Retailleau avec Vincent Serrano. Près de 14 600 nouveaux cas sur les dernières 24 heures. C'est le chiffre le plus élevé depuis le 25 novembre. Et on a bien compris que redescendre à 5 000 dans les prochains jours était un objectif hors d'atteinte. Alors sera-t-on déconfiné ou simplement déconfit pour les fêtes? Y aura-t-il un couvre-feu, de nouvelles restrictions? Jean Castex avouait hier, je suis obligé de dire aux gens comment ils vont réveillonner. C'est difficile pour moi. Eh bien, à 18h, Marie-Bénédicte Allaire, il va devoir forcer son talent.
Ben oui, d'un côté, il y a les impératifs sanitaires et de l'autre, ce que les Français sont prêts à accepter. En privé, des ministres doutent qu'on puisse leur interdire de rejoindre leurs proches pour Noël. Trop difficile à assumer, surtout après leur avoir dit il y a 15 jours qu'ils pourraient fêter Noël en famille. Quant au nombre de personnes à table, Jean Castex fera sans doute une nouvelle fois des recommandations appuyées. En revanche, il pourrait se montrer plus directif sur le nouvel an en interdisant les grands rassemblements festifs. Quant au 15 décembre, pas sûr qu'on en ait fini avec les attestations de déplacement. L'hypothèse du couvre-feu est très probable, mais l'heure encore en débat. Du coup, spectacles et musées sont dans le flou. Ils sont prêts à rouvrir le 15, comme pour le théâtre, voire pour le théâtre le 20 décembre. Sauf qu'on évoque maintenant une hypothèse beaucoup moins optimiste. Ce ne serait pas avant le 20 janvier, comme pour la restauration. Il faut toutefois rester extrêmement prudent jusqu'à ce soir. Il est arrivé qu'Emmanuel Macron change d'avis juste avant une intervention.
Et les cinémas seront particulièrement attentifs aux annonces de Jean Castex, vous le disiez à l'instant. François Patry est président de la Fédération nationale des cinémas français. Il représente 2000 cinémas et il défend un espace de liberté et d'évasion.
On pense aujourd'hui qu'on a un rôle social important dans cette société qui va exploser. Si on ne laisse pas les gens souffler un peu, les gens ne vont pas mourir du virus. Ils vont mourir de perdre la tête, d'être déprimés, etc. Donc, il faut lâcher la soupape, ouvrir un peu et nous laisser faire notre travail, qui est un travail au cœur des villes, au plus proche de nos concitoyens, pour les laisser un peu respirer d'une certaine façon, un peu souffler avec un masque, mais en se détendant un tout petit peu, quoi. Nous, on considère qu'on pourrait faire énormément de bien au moral des Français. Aller voir Adieu les cons ou Wonder Woman 84, ça combattra peut-être pas le virus, mais on est persuadé que ça n'amplifiera pas sa circulation. Et en plus, ça ferait tellement bien au moral des gens qu'on pense qu'il serait même urgent de réouvrir les salles.
Voilà, le cinéma, c'est de l'évasion, cinéma paradiso. Richard Patry avec Stéphane Boutsock. Une pause et dans un instant, on évoque les vaccins avec notre invité Margot Bayard, vice-présidente du syndicat de médecins généralistes MG France.
RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
La vaccination entre impatience et doute, des doutes exprimés parfois par d'éminents professeurs sur les résultats fournis par les fabricants. Hier encore, les Anglais se sont aperçus que le vaccin de Pfizer-BioNTech qu'ils ont commencé à utiliser peut provoquer d'importantes réactions allergiques. Aux États-Unis, on mise sur la transparence. Une vingtaine d'experts indépendants vont débattre en direct aujourd'hui sur Internet des données fournies par Pfizer avant de recommander ou non son autorisation. Un exercice inédit avant que l'Agence américaine du médicament ne vote, elle, sa recommandation. En tout cas, les médecins généralistes auront un rôle essentiel ici dans les prochains mois. Et nous sommes avec Marco Bayard, vice-président du syndicat MG France. Bonjour.
Bonjour.
D'abord, que pensez-vous de ce débat entre scientifiques ?
Bah écoutez, je pense que ce débat est absolument indispensable, hein, puisque effectivement il s'agit d'une nouvelle vaccination, de nouveaux procédés, donc on demande la transparence la plus importante possible pour vacciner en toute sécurité les patients.
Et vous, en tant que médecin généraliste, comment allez-vous vous informer ? Est-ce que vous allez vous aussi vous plonger dans les notices techniques des laboratoires qui ont fabriqué les vaccins ?
Bah écoutez, nous, notre rôle, et ce sera aussi notre rôle de syndicat, c'est d'aller chercher de l'information la plus transparente possible et avec le moins de conflits d'intérêts et de la mettre à disposition de nos confrères pour qu'ils puissent être en sécurité la plus totale. Effectivement, une nouveauté, un nouveau médicament, un nouveau vaccin qui plus est qu'on injecte est susceptible de provoquer des réactions et donc il est nécessaire de s'informer au plus près et au plus loin des conflits d'intérêts. Pour l'instant, il y a un certain nombre d'études qui sont sorties de la part des labos. Après, on veut aussi, on a une responsabilité importante d'information vis-à-vis de nos patients.
Vous êtes un rouage essentiel. C'est vous qui. C'est la réussite de la vaccination, elle est entre vos mains, les médecins généralistes.
Absolument. Tous les jours, les patients nous sollicitent. sollicite et nous demande qu'est-ce que vous en pensez, docteur, de la vaccination. Donc il faut quand même se dire que la vaccination a quand même permis depuis des années d'améliorer la santé des populations. Pour autant, on peut pas faire n'importe quoi et on a besoin des garanties et la médecine générale sera présente.
Est-ce que la précipitation les inquiète, vos patients ?
Oui, effectivement, la précipitation et puis tout ce qui circule aujourd'hui, on a avec les réseaux sociaux, avec l'information de toutes parts et quelquefois l'absence d'esprit critique. Voilà, on mélange le faux, le vrai, et quelquefois ceux qui racontent des choses fausses parlent plus fort que les autres. Donc, il faut quand même rester prudent et c'est vraiment notre rôle, nous en tant que médecins généralistes, d'aller chercher de l'information. Pertinente et la plus transparente possible, je le redis.
Oui, alors on a vu apparaître des allergies en Angleterre sur le vaccin de Pfizer. Comment allez-vous faire, vous, par rapport à ce vaccin quand il va arriver ici ?
Bah écoutez, on va s'inspirer des expériences étrangères déjà. Après, nous pensons que cette vaccination étant toute vaccination est susceptible d'entraîner des allergies, même celles qu'on connaît aujourd'hui. Hein. Donc la présence d'un médecin sera l'encadrement avec une équipe médicale est importante pour cette vaccination.
Et vous allez faire des pré-consultations ?
Oui, nous envisageons de faire des préconsultations. Nous avons déjà commencé à les faire puisque les gens nous demandent qu'est-ce qu'il en est. Donc déjà pour convaincre, mais aussi pour repérer les facteurs de risque, les problèmes de santé qu'ont les patients pour dire on va plutôt prioriser tel patient et tel patient. Bon, sachant qu'on va commencer donc dans la première vague, comme vous le savez, par les EHPAD et les professionnels qui travaillent dans ces EHPAD et qui ont des comorbidités. Oui, des préconsultations. Pour tester et voir aussi s'il y a des antécédents, des facteurs de risque d'allergie connus. Ça, c'est notre métier.
Donc, c'est vous qui allez dire aux patients, moi, je choisis tel vaccin plutôt que tel autre ?
Alors là, non, je pense que dans le cadre de la mise à disposition des vaccinations, il est prévu dans cette première vague, c'était prévu de faire avec le vaccin Pfizer. Je pense qu'après, les choses vont évoluer. Je ne peux pas me prononcer aujourd'hui si nous aurons la latitude de dire ce sera tel vaccin ou tel vaccin, puisque tout dépendra de la disponibilité de ces divers vaccins et de ce qui reviendra des expériences qui chaque jour nous amène des informations.
Mmh, c'est encore trop tôt pour le dire. Une question rapide sur les tests. Comment faire avant les fêtes, docteur ?
Alors, comment faire avant les fêtes ? C'est vrai qu'on est sollicité. Est-ce que le test bénéfice-risque ? Bénéfice, c'est je suis asymptomatique, je fais un test antigénique, il est positif. Ah, ben, effectivement, j'ai bien fait de le faire parce que
je pourrais contaminer mes proches à Noël et donc je vais devoir m'isoler. Oui.
Exactement. Je fais le test antigénique. Ah, youpi, je suis négatif, donc c'est bien, je peux y aller. Attention, respect des mesures barrières, indispensable. Un test négatif, un test antigénique négatif ne donne pas un laissez-passer pour aller voir
mais
ses proches.
Oui, mais on dit qu'il est moins fiable le test antigénique que le test PCR. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'en faire un quand même ?
Je crois que c'est à...
Si on n'a pas de symptômes, évidemment, hein, on est d'accord.
C'est à double tranchant. Ça peut être intéressant pour justement repérer qu'on ne soit pas positif. Ça n'empêche rien s'il est négatif, en tout cas. Il faut continuer à maintenir le respect de la distance et du port du masque. Essentiel et de limiter le nombre de personnes à table. Organiser le plan de table aussi pour mettre les personnes à risque plus à distance. Voilà. Un test négatif, ça ne veut rien dire.
Voilà, et on maintient les gestes barrières coûte que coûte si on veut passer de joyeuses fêtes. Merci beaucoup, merci Margot Bayard, vice-présidente du syndicat MG France. La grippe aviaire progresse dans le sud-ouest. Un deuxième élevage de canards a été contaminé dans le département des Landes, près de Berès-Marem. La préfecture a placé une quarantaine de communes en zone de protection. Les éleveurs sont hantés par les deux crises des 5 dernières années où ils avaient dû abattre leurs volailles. Le jambon rose, il vous paraît appétissant. Et pourtant, c'est une cochonnerie, car sa couleur n'a rien de naturel. Elle est due au nitrite et on en trouve presque partout dans les charcuteries. Plusieurs députés ont déposé hier une proposition de loi afin de les interdire de façon progressive, car elles sont nocives, Agathe Landais.
Oui, car les nitrites augmentent le risque de développer un cancer colorectal ou gastrique, selon plusieurs études. La Ligue contre le cancer estime qu'ils sont responsables de 4000 morts par an dans notre pays. Il est donc grand temps de les interdire, selon le député Richard Ramos. C'est l'un des auteurs de ce projet de loi qui prévoit de chasser les nitrites en deux temps, 2025 pour les jambons cuits et 2023 pour les jambons crus.
Dans toute la charcuterie sèche, que ce soit les jambons, les saucissons, il n'y a pas du tout besoin depuis des années de sel nitrité. Le jambon de Parme n'en a pas. Pourquoi on a mis du sel nitrité dans les jambons de pays, les jambons crus? Pour faire du fric, parce qu'on sèche plus vite la viande. On laisse un peu plus de temps sur les jambons cuits parce que c'est un peu plus complexe, mais il y a déjà des millions de tranches dans votre supermarché qui se mangent sans sel nitrité.
Aujourd'hui, on trouve des nitrites dans 80% de nos charcuteries, pas seulement dans les jambons, les boudins, terrines, saucissons ou encore les rillettes. Le projet de loi prévoit aussi de supprimer les aliments qui contiennent des nitrites de toutes les cantines scolaires. Il sera voté à l'Assemblée le 28 janvier prochain.
Merci Agathe, on peut déjà vérifier les étiquettes quand on achète du jambon, merci. Ultime plaidoirie aujourd'hui au procès des écoutes où 2 ans de prison ferme ont été requis contre Nicolas Sarkozy. Ce matin, l'un de ses fidèles, Gérald Darmanin, lui apporte son soutien personnel. Le ministre de l'Intérieur dit qu'il croit le président Sarkozy, soulignant son honnêteté. Toujours pas d'accord de divorce entre le Royaume-Uni et l'Europe. L'Union a présenté ce matin des mesures d'urgence au cas où il n'y aurait pas d'entente dans les prochains jours. Pour les secteurs les plus impactés, la pêche, la sécurité aérienne ou encore le transport. Et quoi qu'il arrive, la France affirme que la police aux frontières et les douanes sont prêtes pour assurer le transit des voyageurs et des marchandises après le 1er janvier. Une pause et dans un instant, une amende contre Google et Amazon.
RTL. RTL Midi.
Avec Christelle Robière.
Des cookies à 135 millions d'euros. On ne parle pas de pâtisserie d'exception, mais de GAFA. La CNIL, qui protège nos données privées sur Internet, vient d'infliger une amende de 100 millions d'euros à Google et de 35 millions à Amazon pour non-respect de la loi sur les cookies, ces fameux traceurs publicitaires sur lesquels vous tombez dès que vous faites une recherche Internet. En principe, vous devez donner votre accord, mais les deux géants ne nous ont pas demandé l'autorisation, Sophie Jousselin.
Oui, ils ont tout fait mal et à l'envers, alors qu'ils sont légalement obligés de demander l'accord des internautes, les deux géants déposaient ces petits fichiers informatiques d'office sur l'ordinateur ou le smartphone, alors que normalement, quand un site internet respecte les règles, il affiche un message, hein, vous l'avez remarqué, vous le connaissez ce message, qui vous demande si vous acceptez ou non les cookies. Si vous dites oui, vous allez voir des publicités ciblées sur votre écran, c'est-à-dire qui correspondent à vos goûts en fonction des recherches que vous faites sur le net. Si vous refusez les cookies, vous aurez quand même des pubs, mais qui ne vous intéressent pas forcément. L'autre reproche qui est fait aux deux géants, c'est justement cette mauvaise information qu'ils donnaient sur ces cookies, car pour faire croire qu'ils respectaient la loi, Amazon et Google affichaient bien un bandeau un peu caché en bas de page, mais la CNIL a jugé qu'ils donnaient des informations pas claires et surtout qu'ils n'informaient pas le consommateur sur la possibilité qu'il a de refuser ces cookies.
Merci Sophie. Enfin, on connaît les produits stars de cette année 2020, ce que vous avez le plus acheté. Et comme par hasard, ils concernent tous la maison. Le confinement nous a rendus casaniers entre loisirs et télétravail, Arnaud Touche.
Oui, certains produits ont connu une forte croissance des ventes depuis un an, à commencer par les ordinateurs, plus 13%, suivi du petit électroménager, on parle là de machines à café ou encore de robots de cuisine, plus 6%, puis les téléphones portables. Fin octobre, tous ces achats électroniques représentent un chiffre d'affaires de 6 milliards d'euros en pleine croissance. Les Français ont donc profité de cette année pour s'équiper et travailler à la maison pour certains. Beaucoup d'entre eux ont fait le choix d'un achat par Internet plutôt qu'en boutique physique. Le baromètre GFK pour la Fédération e-commerce et ventes à distance observe une hausse de 4 points par rapport à la même période l'année passée. En revanche, les Français ont boudé les produits culturels. Le chiffre d'affaires est en baisse de 6% par rapport à l'an dernier. Les seuls biens culturels qui ont la cote aujourd'hui sont les jeux vidéo, plus 21% pendant le premier confinement.
Et on peut jouer aussi sur Virtual Regatta, par exemple, si on s'intéresse au Vendée Globe. Le naufragé de cette compétition, Kevin Escoffi, a touché terre. Il est arrivé sur l'île de la Réunion. Le skipper a remercié la Marine nationale et son sauveur, Jean Le Cam. Il va rentrer chez lui en Bretagne dans les prochains jours et envisage de reprendre la mer dans 4 mois. Ça reste ma passion, dit-il. J'ai hâte d'y retourner. Et on retrouve Pascal Praud, avec qui vous allez dialoguer au 32-10. Pascal.
Alors évidemment, on va parler de Jérôme Salomon et de la la commission d'enquête du Sénat sur la crise du Covid-19 qui pointe sa responsabilité. Alors, il aurait, hein, si j'ai bien compris, décidé de ne pas commander ou de ne pas renouveler le stock de masques tout seul en 2018. Donc déjà, c'est quand même un souci. Et la deuxième chose qu'on apprend, c'est qu'il aurait fait pression. Il est accusé d'avoir fait pression sur un rapport d'experts pour modifier le nombre de masques dont on aurait eu besoin.
C'est ce que révèle le journal Le Monde aujourd'hui.
Exactement. Donc, c'est quand même le directeur général de la Santé.
C'est le numéro 2
du ministère. Exactement. Donc, la défiance vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis du ministère de la Santé est intacte, j'ai envie de dire, à l'heure du déjeuner, on pourra en parler.
Et on parlera du vaccin aussi, j'imagine.
Bien sûr, on pourra parler du vaccin.
A tout de suite, la météo, Peggy Broche, enfin un peu de douceur à l'ouest.
Oui, exactement Christelle, avec 12 degrés cet après-midi à Bordeaux, 13 à Brest et Nantes, 14 à Biarritz. Rien à voir avec les régions de l'est où là le temps est encore bien froid. 3 à Strasbourg et Dijon, 5 à Lille ainsi qu'à Lyon, 6 à Montpellier, 7 à Marseille et comme à Paris. Côté ciel, ça va mieux, beaucoup moins de pluie ce matin que ce matin. Ça reste couvert malgré tout entre la Méditerranée et les côtes de la Manche en passant par le Massif Central. Le Massif Central où il neige encore hein, par intermittence, mais à haute altitude. À partir de 1300 mètres, on pourrait avoir d'ici la fin de la journée 5 à 10 cm de neige, voire 20 localement sur le relief. Sur la façade atlantique, pareil, amélioration, plus d'éclaircies, moins d'averses, à l'exception des Pyrénées où ça reste pluvieux, avec de la neige à 1400 mètres. Et puis, prudence, parce qu'il y a toujours ces deux départements en vigilance orange, les Pyrénées-Atlantiques pour fort risque d'avalanche, et puis les Landes pour crue. Et puis les plus chanceux, ils sont surtout sur les frontières du nord et de l'est, avec un temps sec et bien lumineux.
Bon, et demain, là, c'est le retour de l'humidité.
Exactement, une nouvelle perturbation qui va traverser le pays cette nuit, qu'on retrouvera demain matin entre les Pyrénées et la frontière belge, avec des pluies continues. Et puis, l'après-midi, elles vont se décaler plus vers l'est, entre l'Alsace et la Provence. Partout ailleurs, c'est ce qu'on appelle un ciel de traîne, donc entre nuages, éclaircies et averses, de la neige en montagne et toujours ce risque d'avalanche sur les Pyrénées-Atlantiques. Les températures vont à nouveau grimper un peu. On sera même sur des températures douces sur l'ensemble du pays, 9 à Lille, 11 à Paris, 16 à Biarritz et de 5 à 8 degrés. Là, on sera plus proche des normales de saison sur le nord-est.
Bon, ben moi, je veux aller à Biarritz alors.
On est d'accord.
Merci Peggy.
Il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et nous allons évidemment parler de Jérôme Salomon, qui est sous le feu des critiques ce matin. Nous sommes avec Cédric. Bonjour.
Bonjour Pascal.
Votre avis ?
Non, pour moi, il ne doit pas démissionner.
Eh bien, vous nous expliquerez pourquoi. Le rappel des titres avec Christelle.
Le gouvernement, une fois de plus, sur une ligne de crête. Le confinement sera-t-il levé au 15 décembre ? Y aura-t-il un couvre-feu avancé ? Les cinémas et les théâtres vont-ils rouvrir ? Le Jean Castex devrait apporter des réponses à 18h. L'objectif des 5000 cas de contamination par jour continue de s'éloigner, avec près de 15 000 cas enregistrés hier. Jérôme Salomon, le numéro 2 du ministère de la Santé, pointé du doigt par la commission d'enquête du Sénat. Il est mis en cause dans la pénurie de masques dont nous avons souffert au printemps dernier. En 2018, il avait pris la décision de ne pas renouveler le stock de masques chirurgicaux. Un deuxième élevage de canards contaminé par la grippe aviaire dans les Landes. Une quarantaine de communes sont placées sous protection pour tenter d'isoler le virus. La fin des plaidoiries cet après-midi au procès de Nicolas Sarkozy. Il s'agit de l'affaire des écoutes pour laquelle 2 ans de prison ferme ont été requis contre lui. Gérald Darmanin, l'un de ses fidèles, lui apporte son soutien ce matin et salue un homme honnête.
Les auditeurs ont la